Voilà, au début de cette nouvelle année, et en lien avec notre thème « Levons-nous et construisons », Néhémie chapitre 2, verset 18, nous voulons consacrer du temps à la prière, accompagné de temps de jeûne, pour ceux qui le souhaitent. Alors, si vous êtes nouveau ce matin, ou si vous vous joignez à l'Assemblée depuis quelques semaines, je vous invite à entrer dans ce thème avec nous. Nous avons commencé la lecture du livre de Néhémie et l'on voit dès le début du récit que Néhémie prie et jeûne. Néhémie chapitre 1 verset 4 « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. » Et nous verrons dans quelques mois, au chapitre 9, il est dit « Le 24e jour du même mois, les Israélites, revêtus d'habits de toile de sac, et la tête couverte de poussière s'assemblèrent pour un temps de jeûne. » Le jeûne, c'est-à-dire le fait de s'abstenir de nourriture et ou de boisson pendant un temps plus ou moins long, est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. Et j'aimerais faire avec vous ce matin un rapide survol de la question « Qu'est-ce que le jeûne dans la Bible ?» C'est donc une prédication qui a pour base un thème plutôt qu'un texte particulier. Je vais donc afficher des versets de la Bible à l'écran pour faciliter le suivi parce qu'il y aura pas mal de textes à lire. Vous pouvez aussi lire dans votre smartphone ou sur votre Bible, mais il faudra un peu de gymnastique pour aller vite. Savez-vous que vous jeûnez tous les jours ? Vous passez tous les jours en moyenne 6 à 8 heures sans manger ni boire, lorsque vous dormez. C'est ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Et c'est une expérience humaine universelle de base. Tout le monde jeûne en fait. Alors à cette expérience quotidienne, s'ajoute la pratique volontaire du jeûne en journée. Et là aussi, c'est un phénomène universel que l'on retrouve dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a des prescriptions sur le jeûne. Nos sociétés occidentales, qui sont vouées en grande partie au culte du corps, n'y échappent pas. Elles appellent cela régime, n'est-ce pas ? Vous suivez, ou vous avez peut-être essayé vous-même de suivre un régime. C'est une forme de jeûne. Ces dernières années, la pratique du jeûne est revenue à la mode. De nombreux sites internet en vantent les bienfaits sur la santé. Alors, il est vrai que dans une société où l'on consomme trop de nourriture, et souvent une nourriture de mauvaise qualité, des voix s'élèvent pour nous encourager à nous abstenir de manger tel ou tel aliment. Vous avez sans doute entendu ces voix. Plus proche de nous, peut-être, dans les églises évangéliques, parmi les chrétiens évangéliques, la pratique du jeûne est devenue courante, voire recommandée, depuis une quarantaine d'années. Je cite Jacques Buchholz, qui a écrit un article sur le jeûne dans la Bible. Il dit, je cite, « On se souvient du livre de Bill Bright, de Campus pour Christ. » Son livre s'intitule « Dans l'attente du réveil, un appel à la prière et au jeûne ». C'était en 1997, dans lequel l'auteur parlait de son expérience de 40 jours de prière et de jeûne, en 1994. Et donc ce Bill Bright encourageait les croyants à suivre son exemple pour prier pour le monde. Cette pratique s'est répandue depuis lors. Par ailleurs, de nombreuses églises évangéliques mettent des jours à part pour prier et jeûner, ce que nous faisons en ce moment. Et le jeûne accompagne nombre de pratiques d'exorcisme actuelles. On voit que le jeûne est utilisé de diverses manières. Et j'aimerais regarder avec vous ce matin ce qu'en dit la Bible. Pour nous aider à faire la différence entre ce qui est écrit dans la Bible et ce qui peut être pratiqué par les uns ou les autres, que ce soit dans notre société ou dans la vie de l'Église. Je vais aborder trois points avec vous ce matin. Le premier, c'est le jeûne se pratique rarement ou occasionnellement. Le nom et le verbe en hébreu qui correspondent à nos mots jeûne et jeûner en français apparaissent tout au plus une trentaine de fois dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, ce qui est peu. On trouve aussi l'expression s'humilier qui a été comprise dans la tradition juive comme une invitation au jeûne, en particulier lors du jour des expiations. Qu'est-ce que c'est le jour des expiations? C'est ce jour où l'Assemblée d'Israël était convoquée pour un temps de confession des péchés et de jeûne. Nous trouvons cela dans le livre du Lévitique au chapitre 16, versets 29 et 30. Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le dixième jour du septième mois, vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Donc jeûne et sabbat. Aussi bien les autochtones que les étrangers résidant au milieu de vous. Car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi vous serez purs devant l'Éternel. Ça, c'était ce que Israël devait pratiquer en attendant la venue de son Messie. Et c'était inscrit dans la loi. Ce jour-là, on jeûnait. C'est d'ailleurs ce jeûne de Lévitique chapitre 16, le seul jeûne dans toute la Bible qui soit un commandement. Nous avons lu tout à l'heure Néhémie 9 chapitre 1 qui mentionne un jeûne national supplémentaire à l'initiative du peuple. Et dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 8 et au verset 19, nous voyons d'autres jeûnes qui se sont ajoutés par la suite, mais qui ne sont pas prescrits par la loi de Moïse. Je cite Zacharie, chapitre 8, verset 19. « Voilà ce que dit le Seigneur des armées célestes, les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois, vous voyez, on en a ajouté, seront changés pour le peuple de Juda en jour de réjouissance, en jour d'allégresse et de joyeuse fête. Soyez épris de vérité et de paix. » Donc ces quatre autres jeûnes officiels ont été instaurés plus tard et commémoraient diverses étapes de la prise et de la destruction de Jérusalem par les armées babyloniennes. On trouve aussi dans le livre d'Esther un jeûne qu'on a appelé traditionnellement le jeûne d'Esther et qui relate l'origine de la fête des Pourim et qui était marquée aussi par un jour de jeûne. Donc les lois que la reine Esther avait promulguées confirmaient, je lis Esther chapitre 9 verset 31, confirmaient l'institution de ces jours des Pourim à la date fixée, tels que le juif Mardoché et l'impératrice Esther, les deux personnages principaux du livre d'Esther, les avaient institués, et tels que les juifs les avaient eux-mêmes institués pour eux-mêmes et pour leurs descendants, avec des jeûnes et des supplications, des prières. Dans l'Ancien Testament, on assiste aussi à des jeûnes publics décrétés à l'occasion de catastrophes nationales ou d'événements douloureux. C'est le cas du jeûne dans Néhémie chapitre 9. Et on voit aussi, dans les psaumes par exemple, il y a pas mal de textes qui en parlent, la pratique du jeûne privé, personnel, individuel, qui marquait certaines circonstances difficiles pour l'individu. Par exemple ici, psaume chapitre 35, verset 13. « Et moi, quand ils étaient malades, » donc le psalmiste parle de ses ennemis, « quand ses ennemis étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux. » Voilà en quelques mots ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve 5 fois le mot « jeûne » et 20 fois le verbe « jeûner ». Ça fait peu, là aussi. Et non seulement le Nouveau Testament parle très peu du jeûne, mais lorsqu'il le fait, c'est souvent de manière polémique, pour s'opposer à la pratique religieuse de l'époque. La moitié des apparitions du mot « jeûner » se trouve dans les textes des évangiles qui rapportent la réponse de Jésus à la question des disciples de Jean-Baptiste, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons souvent ?» On trouve ce texte dans Matthieu chapitre 9, verset 14. « Alors les disciples de Jean-Baptiste, vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ?» Jean-Baptiste et ses disciples jeûnaient. Les pharisiens, chefs religieux, jeûnaient. Mais Jésus, lui, ne fait pas du jeûne une pratique habituelle. Le Nouveau Testament ne contient pas non plus d'enseignement sur le jeûne. On constate parfois que cette pratique existe, comme là, par exemple, chez les pharisiens et les disciples de Jean. Ça existe, le jeûne, ça se fait. Mais le jeûne n'est jamais formellement recommandé. Tandis que la prière, par exemple, est largement recommandée. Ce qui nous amène à un premier constat. Le jeûne volontaire dans la Bible est une pratique rare, occasionnelle, qui correspond à certaines occasions particulières. Le jeûne apparaît peu, contrairement à la prière, par exemple, dont la Bible parle beaucoup. Jésus lui-même et ses disciples ne jeûnaient pas souvent. Il convient donc d'accorder au jeûne la place que la Bible lui donne, à savoir une pratique occasionnelle et non obligatoire. Jeûner peut être une bonne occasion de nous souvenir, par exemple, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Deutéronome, chapitre 8, verset 3, c'est la fin du verset. Et quand on se prive de nourriture pendant un temps et que notre estomac gargouille, eh bien nous nous rappelons que nous dépendons des aliments pour vivre. Eh bien, c'est une image aussi pour nous parler de notre relation avec Dieu. Nous dépendons de Dieu pour vivre et pas seulement de nourriture. Mais si nous ne pratiquons pas le jeûne, il ne manque rien à notre foi. Ne croyez pas ceux qui veulent faire du jeûne une pratique incontournable et nécessaire dans la vie chrétienne. Ce n'est pas vrai. La pratique de la prière est nécessaire. Priez sans cesse, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Le jeûne n'est pas nécessaire, même s'il peut avoir des vertus pour le corps et pour l'âme. Deuxième point, le jeûne se pratique discrètement et humblement. Jésus est extrêmement clair à ce sujet. Dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, les versets 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, si vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage, pour que personne ne se rende compte de ce que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret, alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. » Comment est-ce que le jeûne se pratique dans la Bible? Je cite rapidement quelques exemples. Le jeûne le plus strict qu'on trouve dans l'Écriture, c'est l'abstention totale de nourriture et de boisson. C'est dans Esther, chapitre 4, verset 16. Et sa durée est courte, 3 jours. Elle dit à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, donc dans la capitale, une des capitales de l'Empire perse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Elle va aller faire une demande exceptionnelle à l'empereur sans avoir pris rendez-vous. Et elle risque la mort. Et donc, elle demande à Mardoché, aux membres de son peuple, de jeûner et de prier pour elle. Le jeûne le plus fréquent qu'on trouve dans la Bible consiste en l'abstention de nourriture uniquement et pendant un temps, souvent un seul jour, en général du matin au soir. Par exemple, dans 2 Samuel, lorsque le roi David apprend la mort, enfin David apprend la mort du roi Saül et de son ami Jonathan, lui et ses proches prirent le deuil, 2 Samuel chapitre 1, verset 12, ils prirent le deuil, se lamentèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. À cause de Saül, de son fils Jonathan et de toute l'armée de l'Éternel et du peuple d'Israël qui avait péri par l'épée. Daniel a aussi pratiqué le jeûne, un jeûne partiel, s'abstenant uniquement de certains aliments. Daniel chapitre 10 verset 3, je ne touchais à aucun mets délicat. Je ne pris ni viande ni vin, parce que c'était offert aux idoles. Et je ne me frottais d'aucune huile parfumée, qui était aussi dédiée aux idoles, pendant ces 3 semaines. Alors, il y a une exception. Moïse, qui a passé 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï. Moïse demeura là, Exode 34, verset 28, avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. C'est ce moment où Moïse monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Et il y a là un moment exceptionnel. Ce jeûne est un miracle. Personne ne peut s'abstenir de boire pendant 40 jours. Il y a donc une intervention miraculeuse de Dieu. Et pas un exemple de jeûne à pratiquer. Jésus a vécu une expérience semblable. Matthieu, chapitre 4, versets 1 et 2. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On peut comprendre. Après son baptême d'eau, Jésus est passé par un temps de jeûne dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi ? Parce que Jésus démontre à cette occasion qu'il est bien le nouveau Moïse annoncé par les prophètes. Et ces 40 jours de jeûne, à lui, Jésus, renvoient symboliquement non seulement au jeûne de Moïse sur le Sinaï, mais aussi aux 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert à apprendre quoi ? Qu'il dépend de Dieu. Et Jésus réussit là où le peuple d'Israël avait échoué. Et de nouveau, rien dans ce texte ne nous dit que nous devons chercher à imiter ce jeûne exceptionnel de Jésus, sauf peut-être notre ego qui voudrait essayer de prouver qu'il est aussi fort que Jésus. Et ça, c'est une autre question. Qui n'ont pas jeûné. Ce qui nous amène à un deuxième constat. Le jeûne se pratique discrètement dans un esprit d'humilité et non de rivalité ou de performance. Jésus dénonce l'hypocrisie de ceux qui jeûnent pour se faire bien voir, de Dieu ou des hommes d'ailleurs. Les églises qui pratiquent le jeûne dans une sorte de compétition où celui qui jeûne le plus longtemps est considéré comme un chrétien de premier rang, ces églises se trompent de combat. Le jeûne dans la Bible est une pratique discrète et humble, tout simplement. Elle ne peut en aucun cas nous attirer la faveur de Dieu. Troisième point. Le jeûne se pratique essentiellement dans des circonstances de deuil ou de souffrance. La quasi-totalité des textes de la Bible le confirme. Le jeûne est une expression de deuil. Néhémie 1, verset 4, que nous avons lu tout à l'heure. De tristesse face à la mort ou à l'épreuve. D'humiliation face au péché et au jugement de Dieu. Les gestes mêmes qui accompagnent le jeûne le montrent. On déchire ses vêtements, on met un sac sur son corps, on se couche sur de la cendre ou on s'en met sur la tête. On pleure, on se lamente, on ne se lave plus. Des signes de deuil. Personne dans toute la Bible ne jeûne dans le but de plaire à Dieu. C'est exactement le contraire. C'est parce qu'ils ont conscience qu'ils sont pécheurs que les hommes et les femmes de la Bible jeûnent. En outre, le jeûne est toujours associé à la prière. Personne dans toute la Bible ne jeûne comme ça, par habitude, pour être mieux dans son corps ou pour se mettre dans des conditions spirituelles particulières. Personne. Aucun personnage biblique ne fait du jeûne une technique spirituelle séparée de la prière. Dans les textes où l'on parle du jeûne, on y parle aussi de supplication, de confession des péchés et de repentance, comme nous l'avons fait aussi ce matin. Le jeûne biblique n'est pas une technique de bien-être, ni pour notre corps, ni pour notre relation avec Dieu. Alors, on trouve quelques textes qui semblent échapper à cet état d'esprit de deuil, et j'aimerais les citer rapidement pour terminer. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. « Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. » Et certaines Bibles ajoutent « et au jeûne ». Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Ici, dans ce passage de la lettre aux Corinthiens, Paul traite des relations entre mari et femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour un temps et d'un commun accord, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Peut-être vous avez au jeûne entre crochets dans votre Bible. Cette mention du jeûne est absente dans les meilleurs manuscrits qui nous servent à établir le texte de la Bible en français. On ne peut donc pas recommander le jeûne comme une pratique pour la vie de couple, notamment dans ce qui semble être ici un temps de séparation temporaire. Ici, Paul concède aux couples chrétiens qui ont des difficultés relationnelles de s'abstenir de relations sexuelles pendant un temps défini ensemble. C'est donc un jeûne sexuel ici. Mais ce jeûne, dit Paul, doit être de courte durée afin de ne pas tomber dans l'adultère. La séparation dans la vie de couple, lorsqu'elle dure trop longtemps, c'est un problème. Marc, chapitre 9, verset 29, il leur dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, « Cette espèce-là de démon, d'esprit impur, ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » De nouveau, cette mention « et par le jeûne » est mise souvent entre crochets dans nos Bibles parce qu'on ne la trouve pas dans les principaux manuscrits de la Bible. Il est quasiment certain que cette formule « et par le jeûne » a été ajoutée au texte original à une époque ultérieure où justement la pratique du jeûne et de l'exorcisme s'était développée. Et donc, ceux qui se servent de ce verset pour faire du jeûne une technique d'exorcisme s'égare. Actes chapitre 13, versets 2 et 3. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Et puis, un tout petit peu plus loin, dans Actes chapitre 14, verset 23, « Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Dans ces deux textes, l'atmosphère n'est pas celui du deuil ou de la souffrance. Il s'agit plutôt d'un culte à l'occasion duquel le Saint-Esprit parle d'une manière particulière. Et on voit là un temps de prière à l'occasion d'une séparation. On confie ceux qui partent et aussi ceux qui restent à la bienveillance du Seigneur. Là encore, rien dans le texte n'indique qu'il faut en faire une technique pour toute décision à prendre dans l'Église. On ne jeûne pas à chaque fois qu'on a besoin de décider quelque chose. Mais ça peut faire partie aussi de la vie de l'Église. Ces textes laissent une place dans la vie de l'Église pour pratiquer le jeûne communautaire en certaines occasions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment, en ce début d'année, alors que notre assemblée entre dans une nouvelle étape de sa croissance avec ce projet bâtiment. Nous voulons nous confier à la bienveillance de Dieu en exprimant par nos prières et par des temps de jeûne notre dépendance vis-à-vis de lui. Je résume les trois points pour nous ce matin. Selon la Bible, d'après ma compréhension, si nous jeûnons, lorsque nous jeûnons, le jeûne se pratique occasionnellement, discrètement et humblement, et comme une expression de deuil ou de souffrance la plupart du temps. En nous souvenant, avec Ésaïe chapitre 58, de ce que Dieu considère comme, j'allais dire, le jeûne ultime, en tout cas, l'état d'esprit qui devrait être le nôtre lorsque nous jeûnons. Et je termine avec ce texte. Voici le genre de jeûne que je préconise, c'est Dieu qui parle. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ces moments que tu nous permets de vivre en cette rentrée avec ce nouveau thème, levons-nous et construisons, avec ce projet d'agrandissement de ces locaux. Nous voulons nous placer devant toi par la prière, par le jeûne, et nous rappeler que nous dépendons entièrement de toi pour toutes choses. Merci pour ce que tu nous as dit ce matin. Aide-nous à mettre en pratique un jeûne qui te plaise. Que ce soit en nous abstenant de nourriture ou de boisson pour un temps, ou que ce soit de manière plus large, en vivant en hommes et femmes chrétiens, chrétiennes, droits et droites, qui mènent une vie juste devant toi. Que cela puisse se voir à la maison, au travail, dans les activités que tu nous confies. Donne-nous peut-être cette semaine en particulier un souci pour les plus pauvres, ceux que tu vas mettre sur notre route, et que nous puissions leur venir en aide selon ce qui est juste et selon ce qui t'honore. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.